Vous le savez, hier à Paris se tenait une grande conférence humanitaire sous l'impulsion du président Emmanuel Macron. Nous décryptons les enjeux de cette conférence avec Alberto Toscano, journaliste et politologue. Il était au micro de Blaise van der Linden.
Alberto Toscano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et politologue. Alors, une conférence humanitaire se tient aujourd'hui à Paris sous l'impulsion du président français Emmanuel Macron. Pour commencer, Alberto Toscano, comment évaluez-vous l'importance de cette conférence dans le contexte de la situation humanitaire à Gaza? Et on sait déjà quelles sont les attentes ou résultats de cette conférence?
Les attentes sont théoriquement grandes. La réalité est beaucoup plus modeste. Dans le sens que cette conférence qui a été décidée, réunie par le président Emmanuel Macron, en réalité ne peut pas aller au-delà d'une consultation, d'un dialogue, qui plus est en l'absence de deux partenaires de cette tragédie, Hamas d'un côté et Israël de l'autre, qui sont absents à l'Élysée aujourd'hui. Je disais, la réalité est beaucoup plus modeste que les attentes. On le voit de la décision qui a été annoncée aujourd'hui par le président Macron d'augmenter l'aide humanitaire française à la bande de Gaza de 20 à 100 millions d'euros. Mais là, c'est une décision unilatérale française et pour cause. La France doit bien montrer qu'il y a quelques décisions suite à cette réunion internationale. Et toujours le président Macron souhaite et lance un appel à ce sujet, un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, mais on sait très bien, et les Américains sont les premiers à dire que ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible, ce n'est pas une décision possible sur le plan immédiat. D'ailleurs, la réaction israélienne a été d'annoncer la possibilité de quelques heures d'arrêt des combats par jour, mais certainement pas un véritable cessez-le-feu de plusieurs jours dans la bande de Gaza. Comme on voit, aujourd'hui, on a eu une consultation, une conversation multilatérale à la présence de plusieurs ministres des Affaires étrangères, à la présence de représentants de l'Union européenne, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, d'autres représentants de l'Union européenne et de ses structures, mais on n'a pas eu de décision qui puisse en quelque sorte changer la donne de la situation actuelle à Gaza.
Vous l'avez dit, Emmanuel Macron demande un cessez-le-feu immédiat. Benjamin Netanyahu et Joe Biden sont d'accord entre eux. Ils ne veulent pas, ils disent que c'est impossible. Cette conférence, elle ne peut rien changer. C'était uniquement un titre informatif.
Oui, c'est quelque part une opération de communication. Le président Macron est arrivé bon dernier parmi les principaux représentants des principaux pays européens et occidentaux à visiter Israël après la tragédie du 7 octobre. Il a essayé quelque part de se rattraper en lançant plusieurs initiatives internationales, mais là, on voit que en réalité, on assiste à une situation où le militaire aujourd'hui a le dessus sur les politiques, et même le jour où le politique prendra la parole et exercera toute son influence, ça sera à travers d'autres pays, les États-Unis en premier lieu, peut-être l'Arabie Saoudite, peut-être l'Égypte, mais aujourd'hui la France n'a plus au Moyen-Orient l'influence que la France a eue à une autre époque.
Alors, quels sont les principaux... regardons les pays européens maintenant, comme c'est Emmanuel Macron qui a appelé à cette réunion. Quels sont les principaux défis auxquels les pays européens pourraient être confrontés avec cette conférence et à la suite de cette conférence?
Le défi est de favoriser le dialogue. Le défi est surtout de réfléchir à l'avenir. Aujourd'hui, il y a une guerre en cours et malheureusement, cette guerre, difficilement, peut être interrompue d'un jour à l'autre. Mais un jour, il y aura une paix à bâtir à Gaza. Il y aura une paix à bâtir au Moyen-Orient. Il y aura une paix et une atmosphère de confiance quelque part aussi. à bâtir entre Israël et les Palestiniens, et dont il faudra quelque part avoir une Europe protagoniste de ce dialogue. Par exemple, qui va entrer demain, un jour, dans la bande de Gaza pour garantir la paix? Aujourd'hui, Israël est dans la bande de Gaza, ses forces sont en train de gagner la bataille contre Hamas. Mais on sait très bien qu'Israël ne peut pas rester éternellement dans la bande de Gaza. Donc quelqu'un d'autre devra aller dans ce territoire et garantir d'un côté le fait que Hamas ne pourra pas s'installer à nouveau et de l'autre côté garantir aux habitants palestiniens de la bande de Gaza un avenir de paix et de développement et une situation beaucoup meilleure à vivre par rapport à celle qui a été vécue par ces populations palestiniennes jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faudra garantir un avenir de paix et de sécurité à Israël, mais aussi de prospérité et de paix aux Palestiniens. Et l'Europe, sur ce terrain-là, pourra avoir un rôle de tout premier plan.
Vous l'avez dit, la France a augmenté son aide de 100 millions d'euros, la Belgique l'a augmenté de 2 millions d'euros. Pensez-vous que ce sont des mesures qui sont suffisantes ?
Bon, ça indique un souhait, une direction, une bonne volonté, mais ça ne suffit pas. Mais surtout, aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent. Aujourd'hui, c'est une question de cadre, de contexte politique. L'argent, on peut donner même des milliards d'euros. Mais s'il y a la guerre, cet argent, ça servira à quoi? Il y a des initiatives aujourd'hui ponctuelles qui peuvent aider. Par exemple, la France a décidé d'envoyer un bateau médicalisé au large de côtes de Gaza. Et l'Italie va faire la même chose. Et il y aura peut-être demain des blessés qui pourront être soignés dans ce bateau. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, la parole est aux armes et il est difficile de faire taire les armes, surtout après cette tragédie épouvantable du 7 octobre. Parce qu'on ne doit jamais oublier le fait qu'aucun pays au monde peut accepter de recevoir une agression telle que Israël a subi le 7 octobre 2023.
Pour revenir à ces millions d'euros d'aide, comment s'assurer et comment garantir que ces aides arriveront bien à la population gazaouie et ne tomberont pas pour le coup dans les mains du Hamas?
Mais aujourd'hui, ces aides peuvent être filtrées seulement à travers les autorités égyptiennes qui contrôlent la seule entrée viable pour les civils à la bande de Gaza. C'est par ce point de passage en territoire égyptien que toute aide humanitaire peut arriver à Gaza et dont Israël pose des conditions au sujet de matières qui peuvent entrer à Gaza. Par exemple, Israël exclut l'entrée de combustible parce qu'on sait très bien que la structure de Hamas empêche aux aides en termes de carburant d'être livrées à la population civile. Et les carburants, l'essence et autres carburants sont réquisitionnés par Hamas et sont utilisés dans le contexte des opérations militaires. Donc, il y a des choses qui peuvent entrer à travers l'Égypte et des choses qui ne peuvent pas entrer parce que malheureusement, le rôle de Hamas dans une grande partie de la bande de Gaza est encore déterminant et on ne peut pas aider Hamas sous prétexte d'aider une population civile palestinienne de Gaza.
Pour finir, Alberto Toscano, ce genre de conférences humanitaires comme celle qui se tient aujourd'hui à Paris, elles sont vouées à se reproduire, à recommencer?
On espère que oui et on espère que ce début futur de ce dialogue sera beaucoup plus constructif, beaucoup plus concret et beaucoup avec une perspective beaucoup plus large et même beaucoup plus importante sur le plan de la représentativité internationale par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris. C'est un pas, il ne faut pas négliger tout signal dans la bonne direction, mais c'est juste un signal, ce n'est pas plus que ça.
Alberto Toscano, je rappelle que vous êtes journaliste et politologue. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio
Je vous en
Judaïa.
prie.